Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, les confidences de l'écrivain américain Harlan Coben. Bernard Lehu l'a rencontré à l'occasion de la parution de son nouveau thriller, Intimidation, un livre que nous vous offrirons dédicacé au 3210. Dans l'actualité musicale, David Hallyday nous présentera son nouvel album avec Stephen Bellery et on réentendra le groupe anglais Placebo qui fête ses 20 ans ce soir à Bercy. Charlotte Arrigoni a préparé ses express du jour. Et puis le magazine Rendez-vous en terre inconnue revient sur France 2 à 21h. Frédéric Lopez emmène l'actrice Mélanie Doutet chez les Nomades de Mongolie. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour.
Vous avez donc rencontré Harlan Coben à l'occasion de la publication de son nouveau thriller Intimidation aux éditions Belfond. Depuis près de 15 ans maintenant, Coben est l'un des écrivains américains les plus appréciés des lecteurs français.
Alors il faut dire que l'auteur de Ne le dit à personne fait preuve d'un savoir-faire diablement efficace. Intimidation en est une nouvelle démonstration. Tout part d'une phrase prononcée par un inconnu un soir dans un bar. Vous n'étiez pas obligé de rester avec elle, confie-t-il à Adam, un avocat qui découvre que Corinne, son épouse, n'est pas la femme exemplaire qu'il croyait connaître. Il la questionne, elle se tait et le lendemain, elle disparaît.
Alors c'est en effet un bon début et on a l'impression de connaître la suite, évidemment.
Eh bien, pour tenter de retrouver Corinne, Adam ouvre l'ordinateur de son épouse, oulala, et il découvre qu'elle consultait un site bien troublant qu'Harlan Coben n'a pas inventé.
Je me suis aperçu qu'il existait un site internet pour permettre aux femmes de simuler une grossesse. Sur ce site, on pouvait acheter de faux ventres, de fausses échographies. Je me suis dit comme c'est étrange. Et que se passerait-il si un homme découvrait que sa femme avait simulé une grossesse? Voilà le début du roman. Le thème des secrets dans une banlieue et avec ce site tout à fait réel.
Dites-moi les mélanges d'internet, le mensonge, les secrets. On retrouve là les thèmes finalement de prédilection d'Harlan Coben.
Bien sûr, et qui sont d'une acuité encore plus grande quand ils concernent le couple, la famille. Vivons-nous avec des inconnus? J'ai demandé à l'écrivain américain s'il se posait ces questions, s'il avait ces mêmes angoisses.
Non, je n'ai pas ce genre d'angoisse dans la vie. Sans doute parce que je les évacue en écrivant. C'est un peu comme une thérapie. Je ne crains pas que des gens disparaissent ou me cachent des secrets. Je dors très bien la nuit, mais sans doute donc parce que j'évacue toutes ces frayeurs possibles dans mes romans, c'est probablement une forme de thérapie.
Une thérapie qui réussit très bien, Harlan Coben, qui ne cesse d'enchaîner les best-sellers. Oh,
et comment? Alors du coup, on a envie, n'est-ce pas Yves, de savoir comment Harlan Coben s'y prend quand il écrit.
I'm one of the few authors whose ritual...
Le rituel qui me définit, c'est de ne pas en avoir. Beaucoup d'écrivains parlent de leur lieu favori pour travailler, de cette nécessité que leur regard embrasse toujours la même chose. Moi, mon rituel, c'est de faire ce qui fonctionne, jusqu'à ce que ça s'arrête de fonctionner. Par exemple, je peux écrire dans un café. Si ça marche, j'y reste. Je peux écrire dans une bibliothèque. Un jour, j'avais pris un Uber pour aller à New York. Je me sentais un peu coupable de ce long trajet. Alors j'ai commencé à écrire à bord. J'ai très bien travaillé. Du coup, j'ai commencé à prendre des Uber pour me déplacer parce que j'y écrivais bien.
Ah ben ça, c'est l'ubérisation, quoi. Version Harlan Coben?
Bah oui, exactement. L'auteur d'Intimidation m'a fait d'autres confidences à propos cette fois de son amitié avec un autre champion du suspense et des ventes, Dan Brown. Et oui, l'auteur du Da Vinci Code et celui de Juste un regard se sont rencontrés bien avant qu'ils ne deviennent tous les deux des auteurs à succès.
On est allés tous les deux à l'université d'Amherst. Et on est amis depuis longtemps. J'étais un des premiers à lire le Da Vinci Code avant sa publication. Et le week-end dernier, on a passé deux jours ensemble en Floride pour jouer au golf avec deux autres amis. Dan est un type super, un écrivain très impliqué dans son travail. c'est vraiment un de mes bons amis.
Mais alors, est-ce que quand vous êtes ensemble, vous parlez de vos ventes, voilà, il y a un concours, vous comparez vos chiffres, voilà, on a envie d'être petite souris là et de savoir ce qui se dit.
Non. Je crois que tous les deux, on est très chanceux. Si chanceux qu'on peut à peine y croire. Donc non, on parle de tout sauf de nos livres. On parle de religion, de politique, de philosophie, de vin, de golf, évidemment, quand on joue au golf. Je crois qu'en général, les auteurs parlent très peu entre eux de leur travail d'écriture.
Bon, alors tout de même, Dan Brown et Harlan Coben pèsent à eux deux environ 250 millions de livres vendus. Ça fait du lourd sur les greens de Floride. Et pour terminer, j'ai demandé à Harlan Coben quelle était la question qu'on ne lui avait jamais posée et qu'il aimerait pourtant qu'on lui pose.
Why are you so good looking?
Pourquoi est-ce que vous êtes aussi beau gosse?
Never been
asked. C'est une question qui ne m'a jamais été posée.
Voilà, Harlan Coben, joli gabarit, hein, en tout cas, un bon 1m90 et qui publie Intimidation, c'est aux éditions Belfour.
Et nous vous gâtons ce matin en vous offrant Intimidation dédicacée par Harlan Coben. Mais pour cela, il faut d'abord répondre à la question que vous pose Céan Bernard-Louis.
Alors, quel fastoche, quel sport a pratiqué Harlan Coben le week-end dernier avec son ami Dan Brown?
Il y a des moments, hein, on est vraiment d'une générosité absolue. Dans quelques instants, nous parlons de nos audiences télévisées avec Isabelle Morini-Bosque.
Les réponses sont 32-10 pour le jeu.
32-10, oui. Disons-le.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Alors, elle est en train de vérifier tout ça. À mon avis, elle fait des multiplications, des soustractions, des divisions. Nous en arrivons à nos...
Si vous envoyez des SMS
pendant l'émission, dites-le-moi.
J'étais en train de dire que malgré un problème technique, M6... Et rassemble toujours 3 400 000 téléspectateurs pour Marié au premier regard. C'est tout de même moins, ils sont en deuxième position derrière le téléfilm de TF1, Le mec de la tombe d'à côté. Téléfilm qui est passé quasiment inaperçu, il y avait quand même 6 110 000 personnes.
Il y avait un problème de son décalage
hier soir sur la 6. Oui, tout à fait. Et moi j'ai cru que ça venait de mon téléviseur.
Et puis quand on a lu le livre, franchement l'adaptation était un peu faible.
Ça satisfait 6 110 000 personnes. Et alors en troisième position, Castle, inamovible, un peu moins de 3 350 000 téléspectateurs. Et alors côté TNT, très fort score pour W9 avec le film Évasion, 1 900 000 téléspectateurs. Et alors l'été, j'en suis ravie, les téléfilms de Noël marchent très très bien sur TF1 comme sur M6, chaque jour en début d'après-midi. Et du coup, les Feux de l'amour reviendront le 2 ou le 3 janvier.
Nos scores d'audience,
ma grand-mère n'est pas contente d'ailleurs.
Ah bon?
Oui, sont contents les fous de fiction de Noël, mais ça TF1 l'a fait pour griller M6 parce que l'année dernière, ils se sont fait devancer par M6.
La cuisine interne. Il fallait que je le dise.
C'est avec Médiamétrie, tout à fait.
Allez.
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Ils étaient drôles, émouvants, parfois effarants. Les documentaires de Striptease sont de retour sur Internet.
Striptease, programme belge diffusé à partir de 1992 sur France 3, c'était culte. Eh bien, YouTube nous propose chaque semaine de redécouvrir un ancien épisode. Il y a de quoi faire puisque pas moins de 418 sujets ont été réalisés. On a tous évidemment son préféré. Souvenez-vous par exemple de la soucoupe et du perroquet. Jean-Claude, 50 ans, voulait construire un vaisseau pour s'envoler dans l'espace depuis le jardin de sa maman. Sa mère inquiète à l'idée que Jean-Claude ne revienne jamais.
Tu crois que si t'as l'idée de revenir, que tu ne pourrais pas?
Mais de toute façon, pour un être de notre Terre de troisième dimension, il sera beaucoup plus facile de revenir de la quatrième dimension que d'y aller. Parce que la troisième dimension, finalement, c'est notre dimension. On revient chez nous. De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables.
Je suis à me demander quand tu seras en l'air, comment, à quoi tu penseras.
Voilà la grosse question.
Les épisodes de Striptease à retrouver chaque semaine sur YouTube. Par contre, tapez bien Striptease officiel dans la barre de recherche, hein, sinon vous allez tomber sur du Striptease, mais d'un autre genre. Hein.
Oh oui, mais alors vraiment par hasard.
Ah oui, hein, mais voilà.
C'était pas volontaire du tout.
Je tiens à préciser.
Je l'ai vu dans votre regard. Que donne cette semaine le palmarès des meilleures ventes de livres avec le magazine Express et RTL?
Du côté des romans, Chansons douces, le prix Goncourt de Leïla Slimani est en tête devant Harry Potter et l'enfant maudit de J.K. Rowling. À la troisième place remonte le Goncourt des lycéens, Petit pays de Gaël Faye, talonné par Genèse, le dernier tome de la saga Autre Monde de Maxime Chattam. Voilà pour les romans. Au rayon essais et documents, un président ne devrait pas dire ça, occupe toujours la première place. Sur Les Chemins Noirs de Sylvain Tesson grimpe à la deuxième. De l'âme, le nouvel ouvrage de l'académicien François Cheng arrive à la troisième.
Palmarès complet à retrouver demain dans les colonnes de l'Express. L'histoire de Patrick Dils, bientôt sur France 2, le tournage a commencé.
Patrick Dils, qui a 16 ans en 1987, a été inculpé pour avoir tué deux garçons à Montigny-les-Metz, en Moselle, condamné 2 ans plus tard à la prison à perpétuité avant d'être reconnu innocent en 2002. C'est l'une des plus graves erreurs judiciaires reconnues en France. À l'écran, Mathilde Seigny incarnera la mère de l'adolescent, adolescent qui sera joué par un acteur belge inconnu, et le tout chapeauté par Yves Régnier. Pour la première fois, le réalisateur se livre sur cette histoire qui l'a beaucoup marqué.
Ça m'avait frappé, quoi. Je veux dire, en plus, ma femme est Lorraine, elle est de Metz. Pendant pas mal de temps, j'ai été vox populi, vox dei, hein. C'est-à-dire que j'étais vraiment du côté du peuple, hein. On l'avait présenté comme un coupable, et donc, pour moi, il était coupable. Ce qui m'intéresse, c'est ce double parcours de ce gamin qui rentre en prison et qui, en tôle de chrysalide, va se transformer en papillon, mais il va mettre 15 ans, quoi. Et en même temps, de cette mère courage qui, tout d'un coup, va se révéler, alors qu'au départ, rien ne la porte à faire ce style de combat. Mais elle est extraordinaire, cette femme. Elle n'a jamais douté un seul instant de l'innocence de son fils.
Yves Régnier en exclusivité avec Laurent Marsic pour RTL, diffusion de ce téléfilm prévu dans le courant de la saison 2017-2018. Ce sera sur France 2.
Merci beaucoup Charlotte, c'était les Express de Laissez-vous tenter. Journal musical maintenant. C'est l'heure du journal... Excusez-moi, je me fais rire moi-même avec mon erreur. Parce que j'attendais un jingle qui n'est pas venu.
Je n'ai pas encore de jingle, c'est que pour Charlotte.
Non, mais très bien, voilà. Alors, vous venez d'entendre la voix de Steven Bellery à qui je dis bonjour.
Bonjour à tous.
On commence avec le retour de David Hallyday. Le chanteur vient de publier Le Temps d'une vie. C'est son 10e album studio, Steven.
Oui, et qui paraît après une pause de 6 ans. David Hallyday avait tenté un retour l'an dernier avec un groupe Mission Control. Le disque n'était finalement pas sorti. Ce qui explique peut-être la couleur de ces 10 chansons inédites. Un retour aux fondamentaux. David Hallyday retrouve l'énergie de ses premiers tubes. Exemple avec le titre « Comme avant ». David Hallyday a composé toutes les musiques dans son studio chez lui à Londres. Les textes sont signés Arnaud Santamaria ou Pierre-Dominique Burgot et entre les lignes, le chanteur se raconte. Tout au fond, on est infiniment seul, chante-t-il, ou encore il n'y a rien que l'on gagne si on y perd la vie. À 50 ans depuis le mois d'août, David Hallyday a-t-il eu envie de faire le bilan ? Réponse de l'artiste.
Je pense pas que ce soit une question d'âge, je pense que c'est une question de moment. On a peut-être plus envie de se livrer, on a moins peur peut-être finalement de ce que les autres pensent, parce qu'on vit quand même dans une société où on a le regard de l'autre est super important. Donc je voulais parler du lâcher prise, d'un moment de recul. J'ai l'impression que, et ça m'est arrivé aussi, on a tellement d'espoir, essayer d'atteindre des sommets insurmontables. Voilà. Quand on voit qu'on n'y arrive pas, ben on est souvent déçu, puis c'est là qu'on peut devenir amer, aigri, jaloux, enfin toutes ces choses-là. Oui, bien sûr que j'ai eu des rêves grands, peut-être trop grands aussi. C'est normal, quand on est épris par ce qu'on fait et qu'on est passionné, on rêve toujours du plus gros, du meilleur. Et puis après, tu te fais une raison, tu dis, bon, ben, finalement, si ma route n'était pas celle-là, qu'elle était autre, et puis c'est très bien aussi. Ce sentiment générationnel que j'ai, je vois, j'ai des enfants, j'en ai 3 aussi, donc de les écoute, aime ce que tu fais d'abord, puis après, tu vois, on verra.
Le Temps d'une vie, nouvel album de David Hallyday, vient de sortir. Un dernier extrait. David Hallyday chantera à la Maroquinerie à Paris le 12 décembre prochain.
Alors on va passer au rayon strictement rock à présent. Placebo se produit ce soir à Paris-Bercy. C'est un concert événement pour célébrer les 20 ans du groupe anglais. Un anniversaire célébré également avec la sortie d'une double compilation, Steven.
Oui, avec un inédit Jazzson qu'on entend, et la compile est intitulée A Place for Us to Dream. Deux CD, 36 chansons, l'occasion de redécouvrir ce répertoire totalement atypique, une pop rock grandiloquente, provocatrice à tendance romantique. Placebo, c'est avant tout un duo entre Stéphane Holsdal et Brian Molko, le chanteur du groupe né en Belgique, parle un excellent français. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines, l'occasion de lui demander comment il avait vécu ces deux décennies au sein de Placebo. Brian Molko.
Un rêve et un cauchemar. On n'a jamais l'un sans l'autre, mais on est encore là, on a survécu. L'émotion la plus forte pour moi, c'est la gratitude d'encore avoir un public. La relation entre moi et Stéphane a survécu. Je ne sais pas si je suis surpris, je trouve que c'est super cool. Je pense que je me sentirais perdu sans pouvoir m'exprimer d'une façon musicale, parce que je l'ai fait depuis l'adolescence, et puis je n'ai pas du tout de nostalgie sur notre carrière, vraiment. À provoquer. C'est seulement par notre nature elle-même que ça s'est passé comme ça. La façon dans laquelle nous nous habillons, c'est devenu un acte politique. Il y avait une atmosphère très 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 macho. Moi, j'avais envie que tous les homophobes qui se trouvaient par accident dans notre public au début, qui me regardent, qui se disent « Ah ouais, putain, j'aimerais bien la baiser cette gonzesse. » Puis quand ils découvrent que cette gonzesse s'appelle Brian, il faut que cette personne se pose quelques questions sur la fluidité de la sexualité. Et j'avais envie que ça se passe.
Protect Me, la version française Protège-moi, écrite avec Virginie Despentes, l'écrivaine, l'un des tubes de Placebo que l'on retrouve dans A Place for Us to Dream, double best-of qui vient de sortir. Pour l'anecdote, Brian Molko a eu envie de faire du rock en voyant un concert de Téléphone en Belgique dans les années 90.
Ils étaient nos invités sous l'intitulé Les Insus, il y a à peine quelques jours. Ce journal musical était signé Steven Bellery. Il y a un vrai climat chez Placebo, c'est ce que j'étais en train de me dire. Dans quelques instants, on parle de notre soirée télévisée avec Isabelle Morini-Bosque, qui a révisé ses classiques pour nous.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Nous en venons tranquillement à notre soirée télévisée et on signale, la France a un incroyable talent sur M6.
Première demi-finale.
Voilà, première demi-finale. Mais l'événement ce soir, c'est Rendez-vous en terre inconnue. C'est bien entendu sur France 2, avec Mélanie Doutet, chez les Nomades de Mongolie.
Oui, un pays trois fois plus grand que la France. Et cette 23e émission, celle de Mélanie Doutet, est l'une de mes préférées après Bruno Solo en Anatolie. Parce que Mélanie Doutet va vivre durant 18 jours dans une yourte, avec Frédéric Lopez évidemment, et avec une famille, mais extraordinaire. Le père, la mère, leurs deux garçons, plus une fillette adoptée bébé. Ce sont des éleveurs de chameaux, chameaux spécialement adaptés à cette zone de montagne. J'avais jamais vu des camélidés comme ça. Ils sont absolument splendides. J'ai eu un immense coup de foudre. Ils ont l'air de sortir de Star Wars. En plus, avec ces dunes de Mongolie, c'est absolument formidable.
Vous avez glissé le mot camélidé qui prouve votre parfaite...
J'adore les
choses. En français, elle est impeccable quand même. Oui,
voici la rencontre entre Mélanie Doutet, Frédéric Lopez et l'éleveur aux dents magnifiques, blanc lavabo.
Je suis vraiment content de vous voir. Asseyons-nous. Prends la tabatière. Ici, cet hiver, il a beaucoup neigé et il a fait froid.
Il a fait très très froid cet hiver.
Oh oui, jusqu'à moins 50. Par moins 50, aucun véhicule ne peut circuler. On ne se déplace qu'à d'autres chameaux.
Ils sont magnifiques, avec des poils longs et un piercing dans le nez.
Le piercing, comme tu dis, c'est pour conduire.
Ça, c'est pas le chameau, c'est le rire de Mélanie.
Oui, j'allais dire,
alors, non, j'ai bien vu que vous vous confondiez.
Il y a un petit cousinage avec les camélidés, quand même.
C'est pas un piercing qu'ils ont dans le nez, ces chameaux. C'est un bâton taillé qu'on leur passe à vif à travers les naseaux pour s'en servir littéralement comme d'un guidon de vélo. Ça, je vous assure, c'est impressionnant. Là, il fait moins 37. C'est pas pour dire, mais alors, question basique, comment fait-on pour se laver par moins 37 et à 7 dans la seule pièce de la yourte?
Pour la toilette, je vous dis, comme on est dans le grand froid, on se lavait pas tous les jours. Pas tous les jours, mais on se lavait. Des petites toilettes de chat.
L'hygiène, moi ça fait un petit moment, depuis 10 ans que je fais Terre Inconnue, que finalement ça m'est un peu égal de pas me laver pendant plusieurs jours. Voilà, je vous le dis franchement, pas à Paris hein, bien sûr, mais c'est vrai que quand il fait froid, ben, on sent pas les odeurs, c'est assez incroyable. Et en fait, il y a effectivement la possibilité de chauffer de l'eau, alors c'est de la glace en vérité, dans une petite bassine. Pour le coup, on apprécie, vraiment.
Si je comprends bien, ce couple, vous n'a pas eu de relation intime pendant 18 jours, puisque vous dormez tous ensemble.
Alors, apparemment, parce qu'on a posé la question quand même, petit curieux que nous sommes ici. Et apparemment, ils se font des rendez-vous, eux, l'après-midi, dans la yourte. Et donc, on n'a pas demandé à quelle fréquence non plus, on n'est pas complètement obsédé.
Ce qui est sûr, c'est que, mais il y a une promiscuité, une intimité qui est hallucinante, qui explique d'ailleurs l'attachement. On passe 15 jours, 24 heures sur 24, dans la même pièce, il n'y en a qu'une, et donc vous les voyez au réveil, vous les voyez au coucher. Bah, ça crée un lien très très puissant et qui explique le déchirement au moment des adieux.
Oui, Frédéric Lopez avait son portable. Oui.
Il devait pas capter en Mongolie.
Il y a un tel échange d'amour dans cette famille, honnêtement, et une telle beauté intérieure, extérieure, que les deux Français en restent parfois émus aux larmes, et donc sans voix, qu'ils ont quand même retrouvé pour moi.
On a été touchés par tellement de choses sur ce film, et par exemple la conscience écologique qu'ils ont.
Je confirme que les chameaux de Batrian sont endémiques, c'est-à-dire qu'ils existent à un seul endroit dans le monde, c'est dans cette partie du monde. Et donc c'est ces chameaux immenses et avec des très longs poils. Donc quand vous êtes dans cet endroit qui ressemble à la planète Mars avec des peluches géantes, déjà vous êtes très dépaysé. Et puis c'est vrai qu'on est dans une famille avec des gens qui sont des modèles, la manière dont ils prennent soin les uns des autres, la relation avec les enfants, la relation de ce couple, la relation qu'ils ont avec les animaux. Voilà, tout le monde se pose la question le matin quand ils se lèvent, qu'est-ce qu'on peut attendre de nos vies. Et je trouve qu'ils répondent à pas mal de questions.
Alors l'émission, au bout de 12 ans, garde une excellente image, mais certaines vedettes, souvenez-vous, comme Josiane Balasko, ont dénoncé le côté bon sauvage qu'on va visiter. Frédéric Lopez ?
Alors Isabelle, vous savez, depuis 10 ans, je vis une aventure extraordinaire parce que nous, on vit quelque chose de très fort quand on est sur place. Ensuite, on le montre aux téléspectateurs qui ont décidé que c'est leur programme préféré. Et le journal Le Monde a dit un jour un programme inattaquable pour peu qu'on le regarde. Et au fond, j'ai remarqué que ceux qui le critiquaient l'avaient pas vu. Donc finalement, ça clôt le débat.
Bah, n'empêche que pour eux, il y a un après. Après toutes ces populations, un après. Après les caméras, après ce qui a égayé leur quotidien, après, il reste quoi ?
La question, c'est qu'est-ce qui se passe pour eux quand on est parti ? C'est ça la question ? La réponse, on l'a eue plusieurs fois, puisqu'on a fait des émissions spéciales où on est retourné les voir, on leur a montré les films et on a vu leur réaction. La première chose, c'est qu'ils nous ont dit waouh, c'est exactement ce qu'on vit. Voilà, votre film est fidèle à ce qu'on a vécu. Et ensuite, ils nous ont dit ce que ça avait changé pour eux. Par exemple, Cissé, qu'on a vu avec Adriana Carambeu, a dit grâce à vous, je sais que je suis courageux. Les papous, qu'on a rencontrés avec Zazie, nous ont dit que, bah voilà, c'était un souvenir extraordinaire. Pourtant, ils n'ont pas la notion du temps. Là-bas, il n'y a que des arbres. Et donc, finalement, on a été rassurés. Cette rencontre, elle est forte pour nous, elle est forte pour eux.
Et puis, M. Suren le dit, il vient de la ville. Ils sont pas totalement déconnectés.
Il faut arrêter de penser que ces gens sont des enfants. Ce sont des adultes qui vivent dans le même monde que nous, qui ont fait des choix extraordinaires. À part ça, ils sont comme vous et moi.
Oui, c'est vrai que tous les 3-4 ans, ils retournent montrer les films aux gens qui sont allés voir quelques années plus tôt. Et alors, il y a un truc qui est tout à fait, qui n'était pas prévu, c'est que Mélanie Douté a un arrière-grand-père mongol. Et donc, évidemment, elle a montré les photos à la famille, etc. C'était un moment également très touchant.
Rendez-vous
donc,
à 20h55.
Oui, c'est un très bon rendez-vous en terre inconnue.
Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, vous saurez si vous avez gagné le dernier Harlan Coben, Intimidation, qui paraît aux éditions Belfort.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Quel sport a pratiqué Harlan Coben le week-end dernier avec son ami Dan Brown ?
Eh bien, il pratique le golf, monsieur, voilà. Tous les deux, en Floride.
Et si vous nous avez répondu au 32-10, eh bien, vous avez gagné Intimidation, le dernier thriller d'Harlan Coben, dédicacé de la main de l'auteur. Je peux vous dire que je l'ai sous les yeux, c'est assez impressionnant, hein, parce qu'il occupe toute la page. Merci à toute l'équipe. Dites-moi, je viens de voir Maître de Comment, vous faire un petit bisou ?
Ouais, arrête, tu nous fais passer pour des bouffons, nous, hein ? Qu'est-ce qu'il a raconté ce matin là, sur la banlieue, les constructions et tout. J'ai écouté, là, le monsieur, il a dit ça.
Il va entraîner une vasoconstriction.
Ça, déjà, c'est vas-y, constructeur, déjà, pour commencer. C'est la construction, je t'en parlais, moi. Qu'est-ce qu'il y a, Calvi ?
C'est un médecin qui essaie de donner quelques petits conseils pour aller dans le froid.
Ah, je croyais
enfin,
qu'il parlait
jeune
de...
homme.
Je croyais qu'il parlait de... Excusez-moi, mais j'étais passé à côté. Donc, Maître de Comment est là, effectivement.
Et vous flirtez avec Maître de Comment, vous ?
Non, pas, je ne flirte pas. Vous savez, Maître de Comment...
On flirte au début, M. Calvi. Nous, c'est un grand amour qui dure depuis 20 ans.
C'est platonique.
On n'en est plus au flirt, on est allé beaucoup plus loin.
C'est platonique et je dirais même plus que, d'après ce que m'a dit sa femme, c'est plus platonique en ce moment, mais bon. Mais ça, on n'a pas pu vérifier. Allez, je vous souhaite une bonne journée.
Écoutez, oui, sur ce, bonne journée.
À bientôt.